Recoin de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons survoler le rôle des anciens, d'abord dans l'Ancien Testament et ensuite dans le Nouveau Testament. Bonjour Étienne.
Bonjour Hervé.
À partir de quand trouve-t-on des anciens dans l'Ancien Testament ?
Eh bien, très tôt, puisque dès le livre de la Genèse, nous trouvons les anciens de l'Égypte qui vont assister à la mort et à l'ensevelissement de Jacob.
On trouve ça dans quel chapitre ?
Et on trouve cela dans le chapitre 50 et au verset 7. Et Joseph monta pour enterrer son père et tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui, et toute la maison de Joseph, ses frères, la maison de son père.
Il y a donc des anciens du pays d'Égypte. On trouve, je pense aussi dans l'Ancien Testament, les anciens de Madian et les anciens de Moab. Et ce terme « ancien » se rapporte donc à des peuples qui ne connaissent pas l'Éternel.
Donc ce n'est pas une notion qui est spécifique au peuple d'Israël. Les peuplades étaient organisées déjà et il y avait parmi eux des anciens. Et donc on peut se poser la question alors, qu'étaient ces anciens parmi tous ces peuples ?
Alors le mot « ancien », qu'est-ce que ça signifie ? De dire que quelqu'un est ancien, ça veut dire que, en tout cas au niveau des peuples que nous voyons là, des peuples d'Égypte, de Moab ou de Madian, à l'origine ça veut dire des aînés, des personnes âgées qui ont accumulé une certaine expérience.
Voilà, et surtout qui ont connu ou vu des faits marquants dans la vie de ce peuple.
Et donc qui ont une expérience qui peut être utile à ceux qui suivent. Est-ce qu'on trouve les anciens des fils d'Israël ? À quel moment les trouve-t-on ?
Évidemment, le peuple doit être constitué, donc on comprend que c'est dans le livre de l'Exode qu'on va commencer à trouver les anciens d'Israël.
Au chapitre 3.
Au chapitre 3 et au verset 13. Et Moïse dit à Dieu : Voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous.
Et au verset 16, il dit, va et assemble les anciens d'Israël. Et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Voilà, c'était donc une première révélation que l'on voit pour les anciens, où Dieu se révèle, et Dieu avait constaté l'affliction dans laquelle le peuple se trouvait en Égypte, et il s'approche du peuple, et il donne son nom, « Je suis celui qui suis », celui qui est d'éternité. Et il fait référence aussi à ce que les fils d'Israël se transmettaient oralement. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. »
Donc ici, dans ce passage, nous voyons que les anciens du peuple d'Israël ne connaissaient pas l'Éternel comme celui qui est, mais plutôt comme le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ils n'avaient pas une relation directe avec l'Éternel, on dirait, mais ils avaient quand même la connaissance que leur père avait un Dieu qui les avait guidés jusque-là.
En effet. Et donc cette expérience va aller grandissant tout au long de ce temps qui va courir, de la constitution du peuple, de sa sortie d'Égypte pour aller traverser le désert, pour arriver en Canaan. Et après avoir entendu le nom de l'Éternel, ils sont invités à accompagner Moïse et Aaron chez Pharaon.
Oui.
Deuxième expérience.
Nous allons voir une très grande différence entre les anciens des peuples païens et les anciens du peuple d'Israël. Ils vont être témoins de choses qui sont grandes, qui vont être effectuées, accomplies par Dieu lui-même. Ce ne sera pas seulement une sagesse bâtie sur l'expérience humaine, mais sur l'expérience humaine devant Dieu.
Et donc, ils ont d'un côté maintenant la révélation du nom de Dieu, et devant eux va se trouver l'opposant, Pharaon, qui va s'opposer au peuple, va l'empêcher de sortir d'Égypte. Donc, image de Dieu qui nous parle, qui se révèle à nous, et puis de l'adversaire qui est présent.
Oui, et ces anciens du peuple d'Israël, on pourrait dire jusque-là, ils ont connu l'esclavage en Égypte. Eh bien, ils vont maintenant voir et ils vont entendre des choses, ils vont être témoins de choses de Dieu. Et on pourrait se demander quel rôle ont-ils joué durant ces événements marquants.
Ils ont pris connaissance de la puissance de Dieu. Ils ont entendu les paroles de Dieu. Ils ont vu comment Moïse et Aaron agissaient vis-à-vis des révélations de l'Éternel et de la puissance qu'il donnait à chacun pour parler devant Pharaon et pour réaliser alors après des choses extraordinaires.
Oui, donc ces anciens sont en train de... Ils ont probablement déjà emmagasiné pas mal d'expériences humaines en vivant sous le contrôle, sous la puissance et l'emprise de l'Égyptien, du monde. Mais voilà, maintenant, ça va, leur expérience va prendre une dimension supplémentaire et bien plus élevée lorsqu'ils vont être témoins, cette fois, de la puissance de Dieu qui surpasse tout ce qui peut se passer dans le monde. Et ils sont accompagnateurs de Moïse et d'Aaron. Ça veut dire qu'en fin de compte, ces anciens du peuple, ce ne sont pas eux qui vont agir, c'est Dieu qui va agir, et eux, ils seront témoins de la gloire et de la puissance de Dieu. C'est le cas pour la sortie du peuple d'Égypte. Ils vont connaître donc ils vont être témoins de la délivrance que Dieu opère sur un ennemi qu'ils pensaient invincible. Et ensuite, ils vont avancer dans le chemin. Et nous allons voir quelques exemples, d'ailleurs.
Oui, et donc, pour sortir d'Égypte, Dieu va aussi se révéler d'une manière toute particulière, puisque dans ce chapitre 12 de l'Exode, nous avons l'institution de la Pâque. Au verset 21 de ce chapitre, on voit que « Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, tirez à part et prenez du menu bétail selon vos familles et égorgez la Pâque. » Voilà ce que Dieu institue ici comme étant aussi le commencement des mois. Et au moment où il parle, c'est le premier des mois de l'année. Donc, Israël, voilà une étape importante qui se déroule par l'enseignement de l'Éternel, et évidemment à travers cette Pâque où l'ange destructeur passe au-dessus des fils d'Israël parce que le sang était placé sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons dans lesquelles ils se trouvaient. Il nous montre bien sûr le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous. Instruction de la plus haute importance qui aujourd'hui d'ailleurs est toujours présente parmi les Juifs, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient dispersés dans le monde.
Il y a quelque chose de caractéristique ici dans le chapitre 12. Si nous lisons en verset 3, il est dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant. » Donc Dieu s'adresse à tous concernant la Pâque. Tout le monde est concerné par la Pâque. Et donc tous reçoivent l'instruction, mais comme nous l'avons lu, les anciens ont la responsabilité de s'assurer que ces instructions soient mises en pratique et de s'assurer qu'ils soient les premiers à le mettre en pratique, pour montrer l'exemple. Plus tard, nous verrons encore qu'ils sont témoins, en Exode 17, d'un autre fait marquant dans le peuple, c'est lorsque Moïse va frapper le rocher pour pour qu'il en sorte de l'eau, pour abreuver le peuple dans le désert.
Grâce magnifique de l'Éternel, puisque ce geste de Moïse, c'est une réponse de l'Éternel au murmure du peuple. Un peuple qui déjà ne comprenait pas pourquoi Dieu les avait fait sortir du pays d'Égypte et se retrouver dans le désert où il n'y avait pas d'eau à boire. Et donc, il y a cette contestation qui s'élève contre Moïse. Mais l'Éternel va répondre. Au chapitre 17, au verset 6, « Voici, je me tiens là, devant toi, sur le rocher en Horeb. Et tu frapperas le rocher, il en sortira des eaux, et le peuple boira. »
Au verset 5, il est dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. » Donc, voyons que voilà, Dieu va agir en grâce dans cette circonstance, et nous voyons de nouveau que les anciens sont comme placés au premier rang pour être témoins de ce que Dieu va faire. Et les anciens, eh bien, vont voir la façon dont Dieu agit pour abreuver son peuple, en grâce, malgré le murmure. Et nous ne voyons pas que ce sont les anciens qui agissent, de nouveau, ils sont simplement bien placés pour être témoins de la façon dont Dieu travaille, en grâce. À n'en pas douter, ce genre d'expérience, ce genre de fait marquant doit nous travailler profondément. Une personne qui se trouve là, imaginons d'avoir connu cette délivrance d'Égypte lorsque l'ange destructeur est passé et que nous avons été épargnés, lorsque la mer s'est ouverte devant nous, lorsque nous avions soif et que Dieu a abreuvé le peuple qui murmurait. Ça doit être des circonstances et des étapes dans notre vie qui doivent nous faire grandir intérieurement. Donc, c'est comme on pourrait dire le processus ou l'évolution d'une âme qui va devenir ancien, on pourrait dire, parce qu'il va emmagasiner les expériences avec Dieu.
On peut continuer dans cette pensée de l'expérience qui grandit. Et voilà, ce peuple n'était pas un peuple parfait. Et dans Lévitique au chapitre 4, on peut lire au verset 13, « Et si toute l'assemblée d'Israël a péché par erreur, et que la chose soit restée cachée aux yeux de la congrégation, et qu'ils aient fait à l'égard de l'un des commandements de l'Éternel ce qui ne doit pas se faire, et se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont commis contre le commandement vienne à être connu, alors la congrégation présentera un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et on l'amènera devant la tente d'assignation, et les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. » Voilà de nouveau les anciens qui sont visibles dans ce péché par erreur. Et là, il y a malgré tout une responsabilité de leur part, puisqu'ils viennent poser leurs mains sur cette bête innocente et qu'ils, par là même, transmettent cette erreur sur la bête qui va être égorgée, offerte en sacrifice. Et les anciens, là, représentent toute la congrégation d'Israël.
Oui, même si ce n'est pas à proprement parler un ancien qui a fait la faute, eh bien, les anciens s'associent à la faute et au peuple.
Dans ce livre du Lévitique, toute la loi et tout ce qui était prescrit par Dieu nous est donné, ainsi que dans le livre du Deutéronome. Livre du Deutéronome au chapitre 5. Et le premier verset nous dit « Et Moïse appela tout Israël et leur dit, écoute Israël, les statuts et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Vous les apprendrez et vous les garderez pour les pratiquer. » Et au verset 22, « Et l'Éternel prononça ces paroles à toute votre congrégation sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée, de l'obscurité profonde, avec une voix forte, et il n'ajouta rien. » et les écrivit sur deux tables de pierre et me les donna. Et il arriva que lorsque vous entendîtes la voix du milieu des ténèbres, la montagne étant brûlante de feu, vous vous approchâtes de moi, tous les chefs de vos tribus et vos anciens, et vous dites, « Voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. »
Difficile de s'imaginer la scène, hein, mais quelqu'un qui a vécu ça, mais il doit être marqué à vie, et quand je dis marqué, de manière positive. Et nous voyons au verset 22, en effet, que l'Éternel prononce des paroles à toute la congrégation. Mais les anciens ont, encore une fois, cette position de témoin privilégié, on pourrait dire. Ils voient cette montagne avec ce feu qui témoigne de la présence même du Dieu Saint. Et voilà, ils disent, voici l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, ils sont déjà arrivés à l'état spirituel de dire « Il est notre Dieu ». « Nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Voilà, » c'est beau de voir qu'un homme, un mortel, par la grâce de Dieu, a une relation maintenant avec Dieu, notre Dieu, et a vu la gloire de Dieu et a entendu sa voix et ses paroles. Et là, nous voyons la progression dans l'âme de ces personnes qui ont été tirées d'Égypte, qui ont été abreuvées dans le désert, et qui maintenant sont en contact très proche avec Dieu lui-même. Ce que nous pouvons également retirer de ce texte, c'est qu'il y a les chefs et les anciens. Donc ce sont deux catégories de personnes distinctes. C'est-à-dire que les anciens ne sont jamais considérés comme des chefs. Et il y a les chefs, probablement les chefs de famille ou les chefs de tribu, et les anciens. Et donc, le fait d'être ancien ne signifie pas qu'il y ait une autorité humaine qui lui soit attribuée.
Alors si on peut continuer cette expérience, nous arrivons en Deutéronome 27, au verset premier, « Et Moïse et les anciens d'Israël commandèrent au peuple, disant, « Gardez tout le commandement que je vous commande aujourd'hui. Et il arrivera que le jour où vous passerez le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu te dresseras de grandes pierres, et tu les enduiras de chaux, et tu écriras sur elles toutes les paroles de cette loi. » Voilà donc ici l'annonce de la fin du voyage dans le désert. Et si nous avons survolé ici 40 ans d'existence de ce peuple, combien d'expériences ont-ils fait de ce long parcours à travers le désert?
En effet, il nous est dit par exemple que leurs souliers, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements non plus. On voit qu'ils ont connu les soins de l'Éternel au quotidien. Et dans ce passage où on entrevoit déjà la fin du voyage, le pays promis, eh bien, ces anciens n'ont pas oublié, parce qu'ils ont vu des choses magnifiques, des faits marquants que Dieu a accomplis, et ils n'ont pas oublié, et ça ne s'est pas atténué dans leur mémoire et dans leur cœur. Et c'est ce qui fait un peu le caractère d'un ancien selon le propos de Dieu. C'est de ne pas oublier, de ne pas se dire « oui, mais tout compte fait, c'était peut-être une coïncidence ». On trouve dans le Nouveau Testament, pour faire un parallèle, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui a été arrêté sur le chemin de Damas. Il relate trois fois cet événement qu'il a arrêté. Et ce qui est remarquable, c'est que à chaque fois qu'il donne une description de cet événement, elle est de plus en plus précise. Parce que au cours des années, entre les plusieurs fois où il a raconté ce fait, eh bien, il a appris à connaître le Seigneur.
Alors on peut, en effet, continuer avec ce livre du Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 7. On vient de dire que les anciens n'avaient pas oublié. ce qu'ils avaient vécu. Et Moïse arrive au terme de sa vie et prononce au chapitre 31, au verset 30, et Moïse prononça aux oreilles de toute la congrégation d'Israël les paroles de ce cantique-ci, jusqu'à ce qu'elles fussent complètes. Et au verset 7 du chapitre 32, il peut dire « Souviens-toi des jours d'autrefois, considérez les années de génération en génération, interroge ton père, et il te le déclarera, tes anciens, et ils te le diront. » Voilà, donc il y a la responsabilité des anciens qui ont conservé cette mémoire, ce souvenir des jours d'autrefois, et il y a le questionnement des plus jeunes pour connaître, pour justement garder ce souvenir et le transmettre des jours d'autrefois, des années de génération en génération.
En effet, là, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect des plus jeunes à qui il est demandé d'interroger leurs pères et leurs anciens. Et notons bien qu'il s'agit « Interroge ton père, il te le déclarera, tes anciens, ils te le diront. » Donc, c'est comme si Dieu faisait don, il donne des pères, il donne des anciens aux plus jeunes pour les éclairer sur ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Donc, c'est très joli ce « tes pères, tes anciens ». Il y a cet attachement qui doit se faire selon la pensée de Dieu, et nous devons recevoir donc ses pères et ses anciens comme un don de la part de Dieu. Et donc, il y a cet aspect des jeunes qui peuvent interroger, et il y a cette belle liberté d'interroger des plus âgés, des gens qui ont vécu dans la foi depuis plus longtemps. Et mais il y a aussi cet aspect du père ou de l'ancien ici qui doit transmettre fidèlement. Il doit transmettre fidèlement ce qu'il a vu. Il ne doit pas inventer, il ne doit pas modifier le récit, mais simplement, fidèlement, ce qu'il a vécu avec Dieu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu.
Cela a dû se produire pendant toutes ces années de la traversée du désert, parce que le livre de Josué vient nous dire que cette génération-là, qui était sortie d'Égypte, a été recueillie vers ses pères, et c'est une nouvelle génération qui est née dans le désert et qui va entrer en possession du pays de Canaan. Et donc, ce verset prend toute sa valeur en sachant qu'à travers ces 40 années, il y a eu cette transmission de ceux qui sont les anciens qui sont morts dans le désert et de ces jeunes qui ont reçu toute cette connaissance qu'il y avait, qu'on a rappelé, les différents points que l'on a vus jusque maintenant, et qui deviennent eux-mêmes anciens par la connaissance qui a été transmise pour rentrer dans le pays.
Ouais. Aussi, ce verset nous montre qu'un ancien, c'est au pluriel, hein, les anciens, ils te le diront. Et donc, il ne faut pas se taire. Quand on a vu et qu'on a fait des expériences avec Dieu, eh bien, il faut être capable, il faut avoir envie de le dire à ceux qui nous suivent. Ce serait dommage de se taire lorsqu'on a appris à connaître Dieu dans le chemin. Nous comprenons donc bien là l'intérêt et l'utilité d'avoir des personnes, des aînés, pas seulement aînés dans le sens où ils ont un âge plus avancé, beaucoup sont plus vieux, mais des aînés qui ont vécu fidèlement avec Dieu, qui ont vu clairement avec les yeux de la foi ce que Dieu a fait pour eux, et qui sont là, qui nous sont donnés par Dieu pour nous montrer, nous raconter les merveilles de Dieu. Et non pas pour nous parler d'eux, ou de leurs exploits à eux, ou bien de leur connaissance à eux, non, de ce que Dieu veut nous communiquer au travers d'eux.
Alors on continue ce parcours à travers la parole, et l'Ancien Testament en particulier, de ces anciens, et nous arrivons alors à la fin de la vie de Josué, dans le livre des Juges, au chapitre 2, c'est un verset qui est aussi reproduit dans Josué 24, au verset 31. Il nous est dit, au verset 8, Juge 2, verset 8, « Et Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. » Au verset 10, « Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères, et après eux se leva une autre génération. » On lira la suite après. Parce que voilà donc de nouveau bien des années qui se passent. Josué a pris la relève de Moïse, et la conquête du pays a été donnée. Chacun devait prendre sa portion de territoire, avec sans doute là aussi beaucoup d'expériences qui se sont accumulées, parce que l'ennemi était présent. Et le commandement de l'Éternel était assez strict. Il fallait éliminer complètement l'ennemi. Et donc, voilà que ce conducteur arrive au bout de sa vie, âgé de 110 ans. Et donc, avec Josué, il y avait aussi des anciens. Et cette expression, « Et toute cette génération fut aussi recueillie vers ses pères. » Voilà donc, à nouveau, une transmission, dans le désert, des jeunes transmissions, conquête du pays, deuxième transmission de génération en génération. Alors se lève une autre génération, mais là, il semble que la transmission et justement ces questions posées et ces réponses des anciens ne s'est pas passée comme il le fallait. La parole de nous dire qui ne connaissait pas l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël.
Pourtant, il y avait bien matière à enseigner et bien matière à recevoir. La délivrance d'Égypte, le passage par la mer Rouge, la traversée du désert, cette montagne fumante où avait été donnée la loi. Ensuite, il y avait eu la traversée du Jourdain, la conquête du pays, Jéricho. Comment oublier que Dieu a fait tomber la muraille de Jéricho devant le peuple ? Mais aussi des expériences peut-être moins heureuses au départ, comme Haï, et aussi savoir que pour remporter des victoires avec l'Éternel, il fallait retourner à Gilgal. Des choses très utiles à savoir. Or, il nous est dit ici que cette nouvelle génération ne connaît pas l'Éternel, et ni l'œuvre qu'il avait faite. Donc il n'y a pas de... Cette nouvelle génération n'a pas de relation directe avec Dieu. Et on peut imaginer, ils n'avaient pas de relation véritable avec leurs pères et leurs anciens. Puisqu'il nous est dit qu'il fallait interroger ses pères et ses anciens et qu'eux le diront. Est-ce que ces anciens, ces pères n'avaient rien à dire, avaient oublié ou avaient leur pensée occupée à d'autres choses pour ne pas avoir le temps d'enseigner leurs jeunes? Ou est-ce que les jeunes n'avaient pas d'intérêt pour demander non plus? Ou bien s'ils ont entendu, ils n'ont pas eu le cœur appliqué pour le retenir? En tout cas, nous trouvons là dans l'histoire un pivot, un déclin évident. Et dans le livre des juges qui suit ces chapitres, ce chapitre 2, eh bien, on ne trouve plus d'anciens mentionnés. Il n'y a plus de mention d'anciens. Nous trouvons devant une génération qui a perdu la connaissance de l'Éternel et de ce qu'il a fait, on ne trouve plus de mention d'anciens et c'est le déclin. Au point que, à la fin du livre, il nous est dit, en Juge 21, il est dit au verset 25, « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. »
C'est donc plus un peuple qui connaissait l'Éternel, mais c'était individuel. Quelques personnes gardaient les choses, les enseignements qu'ils avaient reçus, et Dieu va se servir de certains serviteurs, servantes même, hommes ou femmes, pour délivrer Israël de l'oppresseur.
Des juges.
Des juges. Mais pour une période, Et quand ce juge avait jugé, avait délivré Israël, il y avait une période de paix. Et puis, de nouveau, l'ennemi revenait pour prendre les biens d'Israël.
Oui, ces juges offraient des délivrances temporelles et momentanées. Mais l'état du peuple ne s'améliorait pas, puisqu'on n'apprenait pas à connaître l'Éternel et on n'apprenait pas à interroger ceux qui avaient connu comment Dieu intervient en grâce. Mais Dieu est patient et il agit quand même pour délivrer son peuple quand il crie, alors qu'ils ont abandonné ce que Dieu avait prévu pour eux. Ouais.
Mais l'histoire d'Israël va continuer et ils vont réclamer un roi. On vient de lire cette expression, il n'y avait pas de roi en Israël. Ils vont demander un roi. Voilà. Changement, où Samuel peut entendre la part de l'Éternel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. À travers cette demande d'un roi, il y avait aussi la manifestation qu'Israël s'éloignait de l'Éternel.
Pour se rapprocher des peuples païens, des peuples, du peuple du monde qui avait des rois, et au lieu de simplement vouloir écouter la voix de Dieu, ils ont préféré choisir un roi, comme dans le monde.
Et le déclin, là aussi, s'est vite manifesté, puisque le pays a été divisé. Dieu a donné une partie pour garder la mémoire de la maison de David, celui qui était le roi selon son cœur, qui a gardé le territoire de Juda et Benjamin. Et puis, on voit l'histoire des rois d'Israël, comment il s'est passé beaucoup d'événements qui nous parlent aussi des jugements qui sont tombés sur ce peuple. Et enfin, Dieu a eu sa patience qui est arrivée à son terme. Et donc, il envoie un ennemi pour prendre d'abord ses 10 tribus, et puis enfin pour prendre Juda et Benjamin. Et nous voyons alors dans les prophètes comment Dieu va agir et quelle est son appréciation sur ces anciens dont on ne voit plus beaucoup de traces dans l'histoire des rois. Et donc dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 7 et au verset 26, « Il viendra calamité sur calamité, et il y aura rumeur sur rumeur, et ils chercheront quelques visions de la part d'un prophète, mais la loi est périe de chez le sacrificateur, et le conseil de chez les anciens. »
Il n'y a plus de conseil auprès des anciens. Ça me fait penser à un verset que l'on trouve dans Proverbes. Proverbes chapitre 11, le verset 14. « Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais il y a salut dans le grand nombre de conseillers. » Et voilà, nous lisons en Ézéchiel, « Il n'y a plus de conseil auprès des anciens. » C'est-à-dire qu'il y a des anciens, peut-être autoproclamés ou désignés, mais ils ne remplissent pas leur tâche, ils ne remplissent pas leur fonction qui est de conseiller le peuple en fonction de leur relation personnelle avec Dieu, en fonction de leur expérience au cours de toutes ces années avec Dieu. Soit ils ne le connaissent pas, soit ils n'ont pas envie de faire ce que l'Éternel leur demande, pour différentes raisons. Et donc ils ont juste, on pourrait dire, un titre d'ancien, mais pas la fonction et pas la relation avec Dieu qui va avec, qui est nécessairement liée au fait d'être ancien pour le peuple de Dieu. On en arrive d'ailleurs à ce qui se passe dans le Nouveau Testament, dans les évangiles au temps du Seigneur Jésus. Pour récapituler, les anciens, selon la pensée de Dieu, étaient simplement des témoins de ce que Dieu avait accompli au cours de leur vie, et ils avaient la responsabilité de transmettre fidèlement ce qu'ils avaient vu et entendu de la part de Dieu. Des événements marquants, qui normalement auraient dû profondément toucher leur cœur et aussi leur façon de vivre, pour ajuster leur comportement et leurs paroles à Dieu. ou à ce que Dieu attend d'eux.
Nous voilà donc maintenant dans la période de la présence du Seigneur Jésus sur la terre. Et dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15, nous pouvons lire à partir du premier verset. « Alors les scribes et les pharisiens de Jérusalem viennent à Jésus disant, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils mangent du pain ?» Mais lui répondant leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition ?»
C'est parlant. Là, on voit clairement qu'il s'agit de la tradition des anciens et non plus de la parole de Dieu. Et non seulement elle est différente, mais elle est opposée à la parole de Dieu. Il s'agit de se laver les mains. Des choses matérielles, des choses purement formelles, physiques, alors que l'ancien devait avoir un cœur touché par la grâce de Dieu.
Et eux qui connaissaient les Écritures, qu'ils possédaient entre leurs mains, la loi, les livres de Moïse, mais aussi les psaumes et les prophètes, n'ont pas, justement, maintenant cette vue pour considérer celui qui est en face d'eux.
Au point qu'on retrouve les scribes et les anciens assemblés dans le Sanhédrin pour condamner le Seigneur Jésus à mort. Donc la tradition des anciens les a tellement éloignés de Dieu, leur forme religieuse les a tellement éloignés loin de Dieu qu'ils ne reconnaissent pas celui que Dieu leur envoie. Et ils ne reconnaissent pas la grâce. Ils imposent des règles.
Si on continue à nouveau cette période, le Seigneur est donc condamné, mort, mais pas parce que ces hommes, ces scribes, ces pharisiens, ces anciens l'ont condamné, l'ont livré pour être mis à mort, mais parce que lui s'est donné en sacrifice. C'est pleinement que le Seigneur Jésus s'est donné. Ce n'est pas, on n'est pas venu pour le tuer, même si c'est le message qu'ils ont voulu faire passer. Mais nous savons, nous, que le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice pour chacun d'entre nous, pour tous ceux, en tout cas, qui acceptent son œuvre, qui reconnaissent son œuvre expiatoire à la croix. Alors, dans la suite de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus, dans ses premiers pas des apôtres, en l'absence du Seigneur, bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui descend sur eux lorsqu'ils sont assemblés dans cette chambre haute, en acte 2, celui qui va les conduire dans la vérité, qui va leur enseigner. Ils vont comprendre toutes les choses que le Seigneur Jésus leur a dites tout au long de son parcours avec eux. Ils vont comprendre aussi les Écritures et voir à ce moment-là que, oui, le Seigneur Jésus avait bien été annoncé par les prophètes. Mais un cher apôtre, il ne l'était pas encore à ce moment-là, va être suscité par Dieu, et il est intéressant de lire ce qu'il dit de lui-même dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er. Et cela fait la liaison avec ce que nous venons de parler de la tradition des anciens. Donc, Épître aux Galates, chapitre 1er, et nous pouvons commencer au verset 13. C'est l'apôtre qui parle, « Car vous avez ouï dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme, plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allai en Arabie, et je retournai de nouveau à Damas. » Quel beau témoignage, quelle belle confession de la part de l'apôtre Paul, de Saul de Tarse. D'abord, quand il parle de lui, dans les versets 13-14, c'est Saul de Tarse. Et puis dans le verset 15 et 16, et suivant, c'est celui qui devient l'apôtre Paul.
Oui, voilà, on pourrait dire quelqu'un qui a entendu la tradition de ses pères, la tradition des anciens. Et il se dit zélateur dans ces choses-là. Mais cela l'a amené à combattre Dieu, à s'opposer au Seigneur Jésus, à la grâce offerte par le Seigneur Jésus, au point qu'il était persécuteur. Mais un jour, sur le chemin de Damas, il a vu le Seigneur Jésus. Il a entendu le Seigneur Jésus. Et son cœur a été changé. Et désormais, toutes ces choses anciennes, eh bien, n'ont plus aucune valeur. Et il le dira plus tard aux Philippiens. Toutes ces choses que j'estimais avoir beaucoup de valeur, eh bien, ce sont des ordures. Parce que ce qui compte, c'est la connaissance du Seigneur, l'excellence de la connaissance de Christ. Ce jeune Saul de Tarse, qui était consentant à la mort d'un témoin de Christ, Étienne, eh bien, maintenant, il va voir la gloire du Seigneur. Et c'est une caractéristique des anciens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Saul de Tarse, en tant que zélateur de la tradition de ses pères, ne voyait pas la gloire de Dieu. Il voyait probablement sa propre gloire, le propre intérêt du système dans lequel il évoluait, mais pas la gloire de Dieu. Or, un caractère d'ancien, c'est quelqu'un qui a progressé et qui a vu la gloire de Dieu.
Donc nous retournons dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Et nous lisons au verset 9, « Et Moïse, et Aaron, et Nadab, et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent, et comme le ciel même en pureté. Et il ne porta point sa main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. »
Quelle expérience! Non pas seulement voir la gloire de Dieu, mais ils virent Dieu, et ils ont mangé avec lui. Véritable signe de la communion réelle et véritable avec ce Dieu qui se révèle. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons des hommes qui ont vu Dieu et qui ont mangé avec lui et qui l'ont touché. L'apôtre Jean dit dans sa première épître, « Celui qui est dès le commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. » Alors il parle de Christ. Et ensuite il dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. » Voilà le caractère véritablement d'un homme qui a grandi au cours des années dans la foi, au point qu'il a vu, il a entendu, il a retenu, et il a ce désir de le transmettre. C'est ce que Jean dit dans son évangile, au premier chapitre, « Nous vîmes sa gloire ». La gloire comme d'un fils unique de la part du Père. Et à Philippe, en Jean 14, au verset 8, il est dit, « Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Et là, nous voyons que, il faut pas seulement vivre et suivre le Seigneur Jésus comme ce disciple a pu le faire pendant quelques années, il faut comprendre ce qu'il nous dit. Et c'est cela qui fera grandir notre cœur et notre foi et notre véritable expérience de la vie avec le Seigneur. Il ne suffit pas que les années passent en se disant chrétien ou en allant à la réunion pour entendre des messages. Il faut que nos expériences soient véritablement de voir le Seigneur au travers des circonstances de la vie de tous les jours, au travers aussi des messages que nous entendons ou des passages que nous lisons dans la parole. Il faut voir Christ, il faut voir le Fils, et au travers du Fils, le Père.
Révélation merveilleuse que d'autres peuvent témoigner, puisque Pierre lui-même aussi va pouvoir relater dans sa deuxième épître, et on peut le lire au chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre, et on peut commencer au verset 16. « Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. » On voit combien cela, malgré tout ce que Pierre a pu être, voilà, il ne peut pas oublier ce moment merveilleux où ils sont, Pierre, Jacques et Jean, sur cette montagne, et la gloire apparaît. Ils peuvent voir cette gloire magnifique et entendre cette voix qui vient du ciel pour honorer celui qui est là. Et d'ailleurs, dans cette circonstance, il nous est dit que s'il y avait aussi Moïse et Élie, ils sont cachés, pourrions-nous dire, ou ils sont distraits de cette scène, et ils ne virent plus que Jésus seul.
Exact, sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont appris une grande leçon ce jour-là, ces disciples présents. Ils ont vu la gloire du Seigneur, plus élevé que tout autre homme, même le plus grand des prophètes, à côté du Seigneur, n'est rien. Ils ont entendu, donc ils ont vu de leurs propres yeux, le visage du Seigneur resplendir comme le soleil dans sa force, et ils ont entendu la parole du Père, celui-ci, est mon Fils bien-aimé. Plus à Dieu que nous ayons, simplement des personnes comme Pierre, qui ont été témoins de cela, pour nous le transmettre à nous. Et nous comprenons combien il est avantageux et bénéfique d'avoir des frères qui ont ce caractère et cette maturité, on pourrait dire, d'anciens, de personnes qui ont vécu avec le Seigneur, qui ont appris pas après pas à entendre la parole de Dieu dans leurs circonstances et à voir la gloire du Seigneur au travers de leurs circonstances, comme des témoins de la gloire de Dieu dans la pratique, pour nous les transmettre, pour que nous puissions les interroger et qu'ils puissent nous dire.
Voilà, plusieurs ont pu comme ça faire cette expérience, et si aujourd'hui, sans doute, nous n'avons plus ces circonstances qui peuvent paraître extraordinaires dans le vrai sens du terme, mais nous avons la parole. Dans les quatre évangiles, nous pouvons découvrir toutes les gloires du Seigneur Jésus lorsqu'il était ici-bas. À travers toute la parole, nous pouvons décrire et trouver toutes les gloires du Seigneur Jésus.
Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Cet Esprit de vérité qui nous guide dans toute la vérité, qui prend de ce qui est à Christ pour nous l'annoncer. Et parfois, nous avons aussi besoin peut-être d'un frère ou l'autre qui a vécu avec le Seigneur, qui a été dirigé par l'Esprit pour voir la gloire du Seigneur au travers d'une circonstance ou l'autre, pour nous le transmettre et nous enseigner. Alors, on pourrait dire, cette fonction d'ancien n'est pas un titre. Il n'est pas question de s'autoproclamer ou de désigner des anciens, mais simplement de voir que dans certaines âmes se sont laissées enseigner au cours des années par le Seigneur, et nous ne voyons pas une autorité personnelle de leur part, mais simplement qu'ils ont eu une relation vivante avec le Seigneur, au point qu'ils ont ce caractère d'avoir ce désir de montrer la gloire du Seigneur au travers de leur vie à eux, pour l'utilité des autres, en fin de compte.
Voilà, alors on en arrive tout doucement à ceux qui vont être par le pouvoir apostolique, par l'autorité apostolique, être désignés comme ancien dans les premières assemblées qui sont la petite peuple, qui va particulièrement recevoir cette mission de la part de Dieu d'aller présenter l'Évangile, d'aller dans les synagogues et de constituer ainsi plusieurs assemblées locales. Et il y aura alors cette désignation, sans doute, des anciens. Et on peut s'arrêter sur cette pratique qui a existé donc du temps des apôtres. L'apôtre lui-même va transmettre cette autorité tant qu'il était encore en vie et qu'il était en voyage. Il va donc inviter de ses serviteurs qui l'ont aussi suivi dans le chemin, qui ont connu toutes les expériences qu'il a pu faire. Et par exemple, dans l'Épître à Tite, au chapitre 1er et au verset 5, il invite celui qu'il appelle au verset 4 à Tite, mon véritable enfant, selon la commune foi. Et au verset 5, il dit « Je t'ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler et que dans chaque ville tu établisses des anciens, suivant que moi je t'ai ordonné. » Bien sûr, ces premières assemblées naissantes avaient besoin aussi d'avoir au milieu d'elles des personnes qui avaient déjà cette connaissance de la personne du Seigneur Jésus. Quand Tite doit désigner ses anciens, suivant ce que moi je t'ai ordonné, ce que l'apôtre avait ordonné, il fallait évidemment connaître ces personnes. Et donc il fallait voir à travers ces personnes la connaissance du Seigneur Jésus. Et il y avait sans doute aussi une connaissance des Écritures qui existait à ce moment-là et qui leur donnait donc une position au milieu de ces quelques-uns qui constituaient les assemblées pour apporter l'enseignement et la conduite à tenir maintenant que la personne du Seigneur Jésus se révélait dans leur cœur.
Et l'autorité vient de la parole de Dieu et non pas de celui qui la prononce. On trouve aussi des anciens dans l'assemblée à Jérusalem, en acte 15. Oui. C'est un passage où il nous est parlé plusieurs fois des anciens, parce qu'il y avait un problème à régler, une question justement de légalisme. Est-ce qu'il faut-il imposer la loi des Juifs aux rachetés qui viennent des nations? Et puis pour cette question, il y a au verset 2 déjà, une contestation s'élevait donc avec une grande dispute entre Paul et Barnabas et eux. Ils résolurent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Donc à Jérusalem, on comprend qu'il y avait des apôtres et il y avait des anciens. Il est question au verset 6. Et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Donc une question, on va dire, doctrinale, question d'enseignement fondamental se pose. Souvenons-nous qu'à l'époque, mais il n'y avait pas encore le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Ils vont devoir examiner les Écritures qui existent jusque-là et les révélations nouvelles qui sont faites par l'Esprit-Saint aux apôtres. Et nous voyons que les anciens et les apôtres se réunirent pour examiner l'affaire. Et ensuite, au verset 22, une fois qu'ils sont arrivés à une conclusion, ils la proposent à tous les frères et à toute l'assemblée. Et tout le monde est d'accord. On s'en remet à ceux qui ont la connaissance des Écritures et qui sont capables de justifier leur conclusion, ce n'est pas leur avis, mais de justifier leur conclusion à la question, sur base des Écritures et par l'Esprit-Saint. On peut constater que dans ces personnes, dans leur vie quotidienne, elles se laissent diriger par le Seigneur et par l'Esprit aussi. Ce n'est pas seulement quand il est question d'une question d'assemblée que tout à coup, ils se mettent en marche pour régler l'affaire. On voit clairement que ces anciens, dont on lit quelque chose dans les Épîtres, qu'ils sont irréprochables, mariés d'une seule femme, en tout cas pour les surveillants, etc. Et au verset 22, « Alors, il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'assemblée. Voilà pour la conclusion. Et au verset 23, il est dit « Et ils écrivirent par leurs mains en ces termes les apôtres et les anciens et les frères aux frères d'entre les nations qui sont en Antioche, etc. » Et on voit que tout le monde se rallie à l'enseignement qui est donné par les apôtres et les anciens.
Évidemment, dans cette question à Jérusalem, on ne voit pas précédemment que ces anciens furent désignés. Ils étaient là, à Jérusalem. On peut donc penser, sans aller trop loin dans cette considération, que ce sont des âmes qui avaient vu le Seigneur Jésus, comme les apôtres. Ils avaient été disciples de Jésus pendant le temps que le Seigneur était là. Ils avaient sans doute entendu ses discours. Ils avaient vu ses miracles. Ils ont constaté sa mort. Et sans doute aussi sa résurrection. Quand on voit le nombre de personnes qui sont d'abord réunies dans la chambre haute, mais après comment le nombre a grandi pour passer à plusieurs milliers de personnes. Et on sait aussi, à travers les évangiles, que plusieurs parmi les chefs du peuple crurent dans le Seigneur Jésus.
Donc plusieurs des anciens du judaïsme se sont convertis, sont devenus rachetés et disciples du Seigneur Jésus.
Et donc là, on voit que ce sont des personnes qui ont aussi une connaissance et une maturité spirituelle qui leur permettait justement ici de comprendre dans cette délicate question du légalisme, de retourner au judaïsme, qu'ils sont unanimes pour dire non.
Et ça, c'est très important. On voit donc que les apôtres et les anciens qui ont été touchés par la grâce du Seigneur, alors qu'au départ, ils étaient juifs, eh bien, maintenant, le judaïsme, ils ont compris que c'en est fini. C'en est fini. Et ça nous dit bien que quelqu'un qui a véritablement un caractère d'ancien, on pourrait dire, quelqu'un qui a vu la gloire de Dieu au travers de Christ, qui a entendu la parole de Dieu en grâce au travers de Christ, on pourrait dire pour l'heure actuelle, eh bien, n'est pas légaliste. Il ne sera pas là pour imposer des règles et des lois établies. Nous en trouvons la preuve ici. Faut-il suivre la loi ? Les apôtres et les anciens se réunissent, alors qu'ils sont d'origine légaliste, et ils disent non. La conclusion, c'est non. Il ne faut pas confondre fermeté dans l'enseignement et légalisme. On peut très bien rester ferme quant à la doctrine et à l'enseignement que le Seigneur nous donne, sans être légaliste. Dans l'enseignement que le Seigneur nous donne n'est pas légaliste. Mais il est vrai, il est pur, il est saint. Et ça, il faut garder la sainteté et la justice, mais pas tomber dans le légalisme. Un équilibre que nous avons souvent du mal à combiner ou à trouver. Et on voit bien que dans ce chapitre 15, le légalisme n'est pas un caractère d'ancien. Au contraire, puisqu'un ancien a vécu en pratique et en réalité la grâce du Seigneur dans sa vie. Et les anciens du Nouveau Testament nous ont prouvé qu'ils rejettent toute forme de légalisme. Par contre, ils mettent en avant la grâce et la vérité, au travers de la relation avec le Seigneur Jésus.
Différentes questions peuvent apparaître aujourd'hui. On sait que dans d'autres dénominations, les églises, comme on les appelle couramment, il y a encore cette nomination de personnes, cette désignation de personnes pour dire, voilà, il y a la constitution du conseil des anciens, disons, dans telle localité. Mais on voit que aujourd'hui, nous allons plus vers justement des personnes qui, par leur vie, par la démonstration de la vie divine en eux, de leur vie non pas uniquement lorsqu'on est réuni en assemblée, mais dans leur vie de tous les jours, en continu, on peut voir l'expérience qu'ils possèdent et la maturité spirituelle qu'ils ont pour enseigner pour conseiller, pour aider.
En toute humilité.
En toute humilité. Pour consoler, il y a différents aspects que l'on peut considérer chez ces personnes, et sans leur dire, et sans qu'eux ne l'expriment, on peut reconnaître un caractère d'ancien chez certains frères dans des assemblées.
Oui, on peut reconnaître tout simplement le bien que peut apporter les propos, les paroles d'un frère qui a eu des années d'expérience avec le Seigneur quand il ne donne pas son avis, quand il relate ce que le Seigneur a fait dans tel ou tel cas qu'il a déjà connu auparavant, pour le bénéfice et l'avantage de tous. Non pas pour se mettre en avant, non pas pour s'imposer, mais par amour pour les autres et par amour pour le Seigneur. D'ailleurs, dans tous ces passages de la parole que nous avons lus concernant les anciens, on ne trouve jamais le nom des anciens. Ils ne sont pas nommés spécifiquement comme étant des gens importants. Ils sont utiles. Ils sont au pluriel. Ce n'est pas un qui prend le dessus sur les autres. Ils sont utiles, ils sont pluriels, mais Dieu ne met jamais un ancien en évidence comme nous pourrions le faire entre hommes. Voilà, il y a des anciens, il y a des rachetés qui ont été témoins de tous ces faits marquants dans leur vie, qui ont vu la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur, et qui simplement le transmettent à d'autres.
Donc en conclusion, on peut ouvrir la parole en Proverbe 24, et nous lirons les versets 5 et 6. L'homme sage a de la force, et l'homme de connaissance affermit sa puissance, car sous une sage direction, tu feras ta guerre, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est donc bien, voilà, le nombre de conseillers. On venait de le dire, ce n'est pas une seule personne, c'est un nombre nécessaire. Et voilà, que le Seigneur donne que dans nos divers rassemblements, on puisse connaître, reconnaître ceux qui ont cette sagesse, cette connaissance, et s'ils sont plusieurs, pour conduire le troupeau. C'est une charge locale, on connaît les âmes qui composent l'assemblée et on leur apporte les conseils, les soutiens nécessaires, on les guide, et soi-même on recherche bien sûr la conduite de l'esprit.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.